Dimanche dernier, nous avons vu que l'Église locale est importante, nécessaire même, indispensable à notre vie chrétienne, à l'action de Dieu dans nos vies et dans le monde. Nous avons vu quel est le lieu où la parole de Dieu est prêchée, enseignée. C'est un lieu d'affermissement de notre foi, un lieu d'encouragement, un lieu de grâce et de bénédiction. Nous avons vu que le Seigneur l'a créé pour que ses enfants puissent avoir une famille spirituelle, non pas une famille, il faut peut-être le dire, non pas une famille dysfonctionnelle, hein, c'est-à-dire famille brisée, comme hélas aujourd'hui il y en a beaucoup un peu partout, n'est-ce pas, mais une vraie famille des frères et des sœurs unis entre eux, qui restent ensemble, soudés entre eux, qui se protègent, s'entraident, s'encouragent et se fortifient pour mieux vivre leur vie chrétienne dans ce monde et pour mieux annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, le message de Jésus-Christ. Et comme cette semaine, j'ai participé à deux réunions de quartier, deux réunions dans lesquelles on a étudié le chapitre 4 et le chapitre 5 de Néhémie, et la discussion a porté sur l'unité de l'Église, et surtout la dernière réunion à laquelle j'ai participé, on a vraiment parlé de certaines choses, certains dysfonctionnements qui existent dans notre Église, il faut le dire. Notre Église n'est pas parfaite, n'est-ce pas? Il y a des lacunes, on a encore beaucoup de choses à apprendre de la parole de Dieu. Et je me suis dit que j'allais encore ce matin rester sur ce thème de l'Église, l'Église locale. Car on le voit bien dans la parole de Dieu, c'est un sujet trop important pour être juste effleuré comme ça et tout de suite passer à autre chose. Alors je vous propose de revenir sur un texte que nous avons lu à la fin de la prédication dimanche dernier, Éphésiens chapitre 4. Et aujourd'hui, nous allons lire juste les versets 1 à 5. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 5. C'est vrai qu'il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, chantées, citées dans nos prières, mais ça vaut la peine encore de revenir sur ces choses-là parce que le Seigneur peut nous parler à travers ces choses. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1, l'apôtre Paul dit ceci: Moi qui suis le prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humble, aimable et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Dans les chapitres précédents, l'apôtre Paul avait déjà fait référence à l'Église. Il avait parlé de l'Église, il avait défini l'Église comme étant le corps de Christ, le corps de Christ, le temple de Dieu, le temple dans lequel Dieu habite, la famille que Dieu chérit. Et en donnant ces définitions de l'Église, l'apôtre Paul parle de la fraternité. La fraternité qui unit les enfants de Dieu, d'origines diverses. C'est vrai que dans le texte, il parle de juifs et de non-juifs, mais c'est vrai pour nous aussi aujourd'hui qui venons de plusieurs pays, n'est-ce pas, du monde. D'ailleurs, nos animateurs ne le disent pas chaque dimanche que nous pouvons prier dans nos langues maternelles ici, hein, ce n'est pas interdit. Hein, donc n'hésitez surtout pas à prier en espagnol, en portugais, en anglais, etc., etc. L'apôtre Paul donc parle de la fraternité qui unit les enfants de Dieu d'origines diverses, du bonheur de former une famille ensemble, la famille de Dieu. D'ailleurs, ça vaut peut-être la peine de citer ce qu'il dit au chapitre 2, verset 19, lorsqu'il parle de ce que Jésus-Christ a fait en matière de réconciliation de l'humanité. Et c'est intéressant de voir ce qu'il dit sur la réconciliation de l'humanité, de cet homme nouveau, comme il dit, que Dieu est en train de former. Cette société nouvelle qu'il est en train de former dans ce monde, et qui régnera pour l'éternité avec lui. Ils disent aussi à partir du verset 19 du chapitre 2, « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des hôtes temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement posé par les apôtres, ses porte-paroles, et dont lui, Jésus-Christ, est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. » Où Dieu habite par l'Esprit. D'ailleurs, si on regarde un petit peu dans les autres lettres, c'est l'apôtre Paul qui emploie souvent le mot frère. Frère, pour parler des chrétiens. Frère, pour décrire ce que nous sommes dans une église, avec grâce au Seigneur. Mot qui exprime donc ce lien d'intimité qui doit exister entre les enfants de Dieu. Cette proximité, cette affection, ce souci de l'autre, cette aide, entraide mutuelle qui doit exister au sein de l'Église. Par la foi en Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul, nous sommes intégrés, nous sommes sauvés et intégrés à l'Église qui est le corps de Christ, à l'Église qui est une famille, la famille où l'on trouve tout ce qu'il nous faut pour vivre notre vie chrétienne, pour mieux honorer le Seigneur notre Dieu, l'appel qu'il nous a adressé. Or, si la première partie de cette épître, c'est-à-dire jusqu'au chapitre 3, est pleine de doctrine, de théologie, qui est nécessaire, bien sûr, maintenant, à partir de ce chapitre 4, l'apôtre Paul passe de la théologie à la théopraxie, c'est-à-dire, il passe de l'enseignement de la théologie à la théologie pratique, à des choses pratiques, concrètes pour notre vie de chaque jour. Après avoir parlé de ce que Dieu a fait et des privilèges qui sont les nôtres en tant que chrétiens, nous avons des privilèges, lisez les premiers chapitres et vous allez voir, les privilèges de faire partie de la famille de Dieu, du peuple de Dieu. Maintenant, à partir du chapitre 4, il commence à énoncer les devoirs, parce qu'il n'y a pas de privilège sans devoir, n'est-ce pas? Les devoirs qui sont les nôtres, en tant que membre du peuple de Dieu. Il dit ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, comment nous devons nous conduire, comment nous devons marcher dans ce monde, nous les appelés de Dieu. Nous les appelés de Dieu. Dans ce chapitre 4, je dirais chargé comme un bateau jusqu'au bord, et nous allons voir juste quelques petites choses, quelques éléments essentiels. Il y a trois appels. Il adresse trois appels à l'Église. Appel à l'unité, appel au service et appel à la maturité chrétienne. Trois appels très, très importants qu'il nous adresse. Ce matin, nous allons examiner juste le premier appel. Appel, cet appel solennel à l'unité chrétienne, à l'unité de l'Église. Paul met en exergue quelques vérités à propos de l'unité que Dieu attend de ses enfants en tant que corps de Christ ici dans ce monde. Mais avant de les présenter, il dit d'abord quelque chose d'intéressant. Il dit que pour conserver l'unité de l'esprit ou l'unité dans l'esprit, nous devons marcher d'une manière digne de cet appel que nous avons reçu du Seigneur. Marcher est un verbe qui apparaît souvent dans la Bible et surtout dans cette épître. Au chapitre 2, l'apôtre Paul dit qu'autrefois, nous marchions selon le cours de ce monde, selon le prince des puissances maléfiques, etc. Mais en Jésus-Christ, nous avons été créés pour une vie riche d'œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Au chapitre 4, verset 17, il dit que nous ne devons plus marcher comme les païens, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Au chapitre 5, verset 2, nous sommes exhortés à marcher dirigés par l'amour. Au chapitre 5, verset 8, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Au verset 15, nous devons veiller avec soin sur comment nous marchons. Voilà ce verbe très important que l'apôtre Paul utilise pour parler de notre conduite quotidienne en tant qu'enfant de Dieu. Et donc cette phrase, je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, c'est ce qui sert de base. C'est ce qui sert de base à tout ce qu'il va dire maintenant à partir de ce verset 1 jusqu'à la fin du chapitre 6. Un enseignement pratique sur comment nous devons nous comporter dans ce monde en tant que chrétiens, comment nous devons nous conduire en vue de cette vocation céleste que nous avons reçue. L'idée dans le texte original peut être traduite par « je vous exhorte ». Je vous demande instamment, je vous en supplie, conduisez-vous d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Pour l'apôtre Paul, il y a donc urgence à se conduire d'une manière digne. Son désir, c'est que les chrétiens prennent conscience que cette famille à laquelle ils appartiennent, la famille de Dieu, doit être un peuple saint, c'est-à-dire distinct du monde profane, un peuple qui est mis à part pour louer, pour servir le Seigneur dans ce monde, pour manifester son appartenance au Dieu unique, un peuple qui a pour vocation d'être un peuple qui a pour vocation d'être une vraie famille dont les membres doivent manifester, l'apôtre Paul le dit, leur pureté et leur unité, car la pureté et l'unité sont les deux caractéristiques d'une vie digne du Seigneur. Pour l'apôtre Paul, il n'est pas question que les enfants du Seigneur déshonorent leur père. Il n'est pas question. Il n'est pas question qu'ils déshonorent par un comportement qui est contraire à ce nom qu'ils portent, à cet appel qu'ils portent, qu'ils ont reçu. On raconte que l'un des fils de Napoléon Bonaparte avait très mauvaise conduite et faisait finalement ombrage à la réputation de son père. Alors Napoléon le confronta en lui disant « Soit tu changes de comportement, soit tu changes de nom. » Les chrétiens portent en eux un nom. Ils portent en eux une vocation. Et la parole de Dieu nous appelle à honorer ce nom et cette vocation. L'exhortation à nous conduire de manière digne va finalement couvrir tous les autres domaines de notre vie, dit l'apôtre Paul. Paul met en contraste notre manière chrétienne de vivre avec celle du monde. Si nous lisons à partir de ce chapitre jusqu'à la fin, nous constatons que, jusqu'à la fin de l'épître, nous constatons qu'il parle de comment nous devons vivre de manière digne, déjà dans nos foyers, en tant que père, mère, mari, épouse, enfant, etc. Comment nous devons nous comporter vis-à-vis de nos conjoints, de nos enfants, de nos parents. Comment nous devons nous conduire vis-à-vis de nos employeurs, ça aussi, hein, ou de nos employés. Bref, comment nous devons nous conduire vis-à-vis les uns et les autres. Mais avant tout cela, Paul met en priorité l'unité dans l'Église. L'unité dans l'Église. Le besoin urgent de conserver l'unité de l'esprit. L'accent de toute cette épître, jusqu'à ce point, est sur le dessein de Dieu pour son Église. Pour son Église. Et tout le passage de 1 jusqu'à 16 du chapitre 4 parle donc de l'unité. L'unité dans l'Église. L'unité de l'Église. Pour l'apôtre Paul, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de sacré. Paul s'est engagé entièrement au projet de Dieu pour l'unité de l'Église. Plus tard, il va dire que l'unité est possible dans la diversité de caractère, de manière de faire, de compétences, de dons, etc., et que cela est un signe de maturité. Mais avant cela, il commence par la base. Il commence par nous dire ce qui est essentiel pour que nous puissions conserver l'unité qui nous vient de l'Esprit Saint. Que faut-il faire pour conserver cette unité? L'apôtre Paul nous dit très clairement que nous devons mettre en pratique trois vertus essentielles, trois vertus indispensables, lesquelles, le texte le dit, l'humilité, la douceur, la patience, le support mutuel et l'amour. Ce sont ces valeurs morales qui doivent distinguer finalement les chrétiens, les membres d'une église. L'humilité, la douceur, la patience, le support mutuel et l'amour. Et je me suis dit que c'est intéressant de voir qu'il commence par là, n'est-ce pas ? Il ne commence pas par mentionner d'abord les défauts, j'allais dire les fléaux, n'est-ce pas, qui empoisonnent souvent nos relations, qui détruisent l'unité partout, dans la société, dans nos foyers, dans l'église, etc. L'arrogance ou l'orgueil, la dureté ou la force, l'exaspération ou l'impatience. On sait ce que ces choses produisent, n'est-ce pas, au milieu de nous et dans la société. Tout le monde sait que ces choses sont comme des corps étrangers, comme des germes qui pénètrent dans le corps, qui l'infectent, qui l'empoisonnent et qui détruisent nos relations un peu partout. Non, l'apôtre Paul ici, il commence par citer des choses positives, ces 5 vertus essentielles à une bonne entente entre nous, n'est-ce pas ? Vertus, j'allais dire, sociales, fraternelles, qu'il recommande aux chrétiens s'ils veulent faire ce que la parole de Dieu nous dit, maintenir l'unité entre chrétiens. Alors nous allons vite voir quelques-unes, ces cinq vertus. D'abord l'humilité. L'apôtre Paul nous encourage, nous exhorte à marcher dans l'humilité. On sait bien, celle-ci n'a jamais été à la mode, n'est-ce pas, dans notre pauvre monde. Depuis toujours, l'humilité a été identifiée comme une attitude abjecte, comme une attitude servile, semblable à de la résignation. Le monde nous encourage à mettre l'accent sur l'opulence, sur l'arrogance. Les hommes veulent démontrer leur supériorité. Les pays, la même chose, les uns vis-à-vis des autres. Mais la vraie force, nous dit l'apôtre Paul, la vraie force se démontre dans la capacité finalement de se maîtriser, de dompter sa colère, de contrôler son esprit, de rester humble. L'apôtre Paul utilise ici un mot grec qui désigne l'humilité d'esprit, la reconnaissance de la dignité et de la valeur de l'autre. Non pas la mienne, mais de l'autre. La mienne aussi, mais de l'autre. Jésus a souvent parlé de l'humilité, n'est-ce pas, dans les textes bibliques. Il a souvent donné l'exemple en matière d'humilité. Par exemple, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, lui, le maître et le Seigneur, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et leur a dit de faire de même, que ses disciples deviennent serviteurs les uns des autres. Il est le seul à avoir pris un enfant comme modèle d'humilité. Ce n'est qu'avec sa venue et son enseignement, n'est-ce pas, que l'humilité authentique a commencé à être reconnue. Il était de tous les hommes le plus humble. L'apôtre Paul, d'ailleurs, cite son exemple, n'est-ce pas, dans Philippiens chapitre 2, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » L'apôtre Paul nous dit ce matin que l'humilité est indispensable à l'unité chrétienne. Elle est le secret de l'harmonie entre nous. Si la vanité personnelle affecte profondément nos relations, si l'arrogance détruit l'unité, l'humilité la restaure. Autant l'orgueil d'une personne tend à l'éloigner des autres qui préfèrent l'éviter, autant l'humilité attire et invite. Une chose qui a attiré mon attention lors d'une lecture que j'ai faite pour préparer ce message, c'est ce que dit Carl Lewis. Il fait remarquer que l'orgueil est évident. Il dit, plus l'orgueil est évident chez nous, plus il nous agace et nous pousse à réagir quand nous le rencontrons chez les autres. Et je me suis dit, c'est vrai que je m'agace souvent avec l'orgueil des autres. Donc le Seigneur a du boulot, n'est-ce pas, dans ma vie. Et je pense dans la vie de chacun de nous. L'humilité ne peut venir que lorsque nous prenons conscience de la réalité de notre condition d'être humain, de créature de Dieu. Nous avons été créés, nous sommes des créatures de Dieu. Il nous a créés dépendants de lui et dépendants les uns des autres. Et lorsque nous regardons Jésus, là nous prenons conscience, n'est-ce pas, de nos misères et de nos imperfections. La deuxième vertu chrétienne nécessaire à l'unité de l'Église, c'est la douceur, nous dit l'apôtre Paul. La douceur qui va de pair avec l'humilité. Nous pourrions traduire ce mot par amabilité, gentillesse, être sensible aux autres. Et on sait bien que la douceur est tellement nécessaire, n'est-ce pas, aux amitiés. Elle est tellement nécessaire aux rapports humains en général, que ce soit dans l'Église ou ailleurs. La douceur est tellement nécessaire. Pour Aristote, la praotesse, c'est le mot grec qui apparaît dans le texte, la praotesse, c'était la modération, le juste milieu. Là où il y a des extrêmes, on reste au milieu. Le juste milieu. Ce terme était utilisé pour parler de l'animal dressé qui obéit, qui est sous contrôle. C'est la capacité donc de se maîtriser, de se mettre au service des autres, avec gentillesse, avec amabilité. Pour Jésus et les apôtres, la douceur n'est pas une faiblesse. La douceur n'est pas une faiblesse. Elle est une expression de la foi. Elle est soumise à la volonté de Dieu. Et la douceur est désintéressée. La douceur n'est pas égoïste. La douceur n'est pas dure. La douceur n'est pas amère. Elle n'est pas rigoriste. Elle n'est pas dépourvue de toute humanité et de toute miséricorde. Elle ne s'avance pas. Elle ne cherche pas la première place. Elle donne place aux autres. Ces deux vertus se trouvaient harmonieusement réunies, n'est-ce pas, l'humilité et la douceur, dans la personne de Jésus-Christ. Nous lisons dans la Bible que Jésus était doux et humble de cœur. C'est lui qui a dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Et nous lisons encore dans la lettre aux Philippiens ce que l'apôtre Paul dit « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité qui est apparentée donc à la douceur, estimez les autres supérieurs à vous-même. » Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La douceur ne se sert pas de la force. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un anneau, le petit d'une bête de somme. La troisième vertu à l'unité chrétienne, c'est la patience. La patience. C'est-à-dire la patience à l'égard de ceux qui nous exaspèrent, qui n'agissent pas selon nos attentes, ou peut-être qui agissent même contre nos attentes. Patience qui est faite de compréhension, d'ouverture de cœur, de bonté d'âme, qui fait confiance et qui ne se décourage pas. Pour Chrysostome, la macrotimie, c'est avoir la capacité de se venger et de ne pas le faire. Avoir la capacité de se venger et de ne pas le faire. Ce qui peut nous aider à comprendre ce que c'est la patience, c'est de savoir finalement quelle est une caractéristique de notre Dieu. L'apôtre Paul interpelle les lecteurs de sa lettre aux Romains en disant « Méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu à ton égard ?» Dieu est un Dieu de douceur, de gentillesse, de bonté à notre égard. Et il témoigne L'apôtre Paul témoigne de la patience due à son égard lorsqu'il dit dans une de ses lettres, « Mais Dieu a eu pitié de moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi, l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui, dans l'avenir, croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. » L'apôtre Pierre nous dit dans une de ses lettres que c'est la patience de Dieu et le salut des hommes. La patience de Dieu est le salut des hommes. Je me suis demandé si Dieu était comme moi, si Dieu était comme nous, probablement que depuis longtemps, nous n'existerions plus sur la terre, n'est-ce pas? Avec tout le mal que l'homme fait sur la terre, si Dieu n'était pas patient, nous ne serions plus de ce monde. Dans Matthieu chapitre 18, Jésus raconte la parabole du serviteur impitoyable. Rappelez-vous de cette histoire. Le roi, n'est-ce pas, qui a manifesté de la compassion vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas été patient vis-à-vis d'un autre qui lui devait un peu d'argent. Et la leçon de cette parabole, c'est que nous devons refléter envers les autres finalement la patience que Dieu démontre vis-à-vis de nous. La quatrième vertu nécessaire à l'unité de l'Église, le support mutuel. Je pense que le Nouveau Testament insiste beaucoup sur cette notion, cet aspect, car on peut dire que ce n'est pas facile de vivre ensemble. Déjà en famille, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile de vivre en famille. En Église non plus. Dans le travail avec les collègues, ce n'est pas toujours facile. Le support mutuel, qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je pense qu'il s'agit d'avoir une certaine tolérance, une certaine flexibilité, de patience, comme on vient de le dire, entre nous, n'est-ce pas? Les uns vis-à-vis des autres. Et notamment envers ceux pour qui ou avec qui nous n'avons pas, comme on dit, des atomes crochus, n'est-ce pas? Avec des gens peut-être à problème. Peut-être des personnes difficiles à supporter. Certes, sans cautionner tout ce que les gens font. Non, ce n'est pas ça. Mais en faisant preuve, finalement, d'indulgence, de miséricorde à l'égard des uns des autres. Car sans indulgence et sans miséricorde, il est impossible de vivre en paix, de vivre en harmonie. Mais dans le support mutuel, je vois aussi le soutien mutuel. Le soutien mutuel. Se soutenir les uns les autres réciproquement. Comment? En se donnant courage lorsque nous passons par des difficultés. En évitant toutes les causes de tristesse. Car chacun de nous, un jour ou l'autre, passera par des difficultés, n'est-ce pas? Il aura sans doute un fardeau lourd, écrasant à porter. Et où allons-nous retrouver le soutien? Dans nos frères et sœurs, n'est-ce pas? Cette patience et ce support mutuel sont la preuve de notre amour. L'apôtre Paul venait de prier au chapitre 3, verset 17 de cette lettre, que nous soyons enracinés et solidement fondés dans l'amour. Dans l'amour. Et là, nous arrivons au cinquième pilier de l'unité chrétienne, cette vertu qui embrasse toutes les autres, la couronne de toutes les vertus, l'amour qui a été cité dans l'une de nos prières ce matin. L'amour qui fait tout pour ne pas nuire les autres, qui cherche activement le bien-être des autres, le bien-être de la communauté, l'amour qui bénit les autres et qui ne maudit pas. L'amour qui nous fait accepter les autres tels qu'ils sont, différents de nous, qui nous pousse, par exemple, à ne pas partir vite de l'assemblée, mais à nous saluer les uns les autres, à prendre au moins le temps de nous saluer, parce que c'est le jour du Seigneur. Dans la semaine, peut-être nous ne le faisons pas. Faisons-le le dimanche, n'est-ce pas? Nous saluer les uns les autres par ce fameux saint baiser dont l'Écriture nous parle à plusieurs reprises. C'est-à-dire, nous saluer de manière chaleureuse, avec affection, peut-être en entonnant ce petit cœur qui dit « Je t'aime de l'amour du Seigneur, n'est-ce pas? Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. L'amour qui s'exprime aussi par mille et une façons, par des paroles, par des gestes, par des appels téléphoniques, par de l'aide pratique, par des invitations. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres, dit l'apôtre Paul. Mettez-vous au service les uns des autres. Cette affection pure et sincère renforce l'unité et le bien-être de la communauté. Voilà donc les cinq piliers de l'unité chrétienne que l'apôtre Paul nous présente. Notons au passage que l'apôtre Paul nous exhorte à nous efforcer. L'unité existe, c'est une unité spirituelle qui vient de l'Esprit Saint, mais il nous exhorte à nous efforcer de conserver l'unité de l'Esprit, à nous appliquer, à faire en sorte que cette unité soit une réalité, qu'elle soit visible, à ne pas ménager aucun effort en vue de maintenir cette unité. Le mot grec que l'apôtre Paul emploie ici suggère un effort soutenu, un effort continu, un effort diligent. C'est une insistance que l'apôtre Paul nous adresse pour que chacun de nous mette tout en œuvre pour préserver précieusement l'unité de l'Église, l'unité chrétienne, l'unité spirituelle. Cela demande donc du travail, des efforts. Il nous faudra faire la différence entre ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire, entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Quelqu'un disait sur le fond, unité, sur la forme, liberté, mais en toute chose, charité. En toute chose, charité, amour. Cela veut dire que l'unité est possible dans la diversité. D'ailleurs, plus tard, l'apôtre Paul va le prouver, le dire. Car unité n'est pas synonyme d'uniformité. Heureusement que nous ne sommes pas tous pareils, n'est-ce pas ? Ce sens serait mortel, serait terrible. Heureusement que nous ne sommes pas tous pareils. L'unité n'est pas synonyme d'uniformité. L'unité est synonyme de maturité spirituelle. C'est à nous qu'incombe donc cette initiative d'agir en faveur de l'unité. Cette unité de l'esprit est finalement le résultat de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit dans cette lettre qu'il a détruit le mur de séparation, il a détruit les barrières qui existent entre nous. Il parle des juifs et des non-juifs, mais cela s'adresse aussi à chacun de nous. Cette unité chrétienne s'enracine dans notre expérience commune d'un seul Père, d'un seul Sauveur et d'un seul Esprit qui demeure en nous. Alors pour terminer, je dirais tout simplement, soyons passionnés par l'unité. Et plus que jamais, soyons zélés pour la maintenir, pour la conserver. Car pour la parole de Dieu, l'unité est quelque chose de sacré. Que Dieu bénisse sa parole.